tu peux plus te voir.
Bonsoir à tous, 100% rugby jusqu'à 19h. Vous en avez l'habitude et vous, malheureusement, vous l'avez déjà entendu. Yann Blanchard, community manager de l'Aviron.
On n'est pas bien sur lui, par contre.
Roger Aguerre, entraîneur de l'AS Bayonne. Salut à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce qu'il y a déjà?
Oh, t'es déjà fatigué. Tu lèves les yeux
dès que je vois. Une semaine avec toi, j'ai l'impression d'avoir pris 3 ans dans ma vie. C'est terrible. Ou 3 ans de prison ferme. Pff, vivement que ça s'arrête.
3 ans, plus la soirée à Saint-Jean dimanche, 3 ans de
mais
plus.
Mais tu pas là, donc à la limite,
c'est bien pour les quitter en couvrant après Anglette.
T'as fini? On peut passer à la suite. Merci. Le Biarritz Olympique à l'affiche de cette 26e journée de Pro D2. Ça tombe bien pour Yann Blanchard. Déplacement à Boniface contre Mont-de-Marsan ce vendredi avec une équipe remaniée. L'objectif, malgré tout, d'aller chercher de précieux points dans la course au maintien. On en parle dès à présent. Week-end de Coupe d'Europe. On se projette sur les affiches de Champions Cup et de Challenge Cup. Les infos du jour avec le qui peut battre. Yann Blanchard, t'es en train de regarder les réponses. S'il te plaît, tu me supprimes ça tout de suite.
Pas du tout. Je suis choqué.
Et puis dans la dernière ligne droite, on va te fermer ça. Et puis dans la dernière ligne droite, on évoquera t'es perturbé et perturbant déjà d'entrée.
Je refuse de jouer s'il a les réponses.
Et puis dans la dernière ligne droite, on évoquera le barrage de l'Anglette Olympique à Nîmes ce week-end à National 2 avec l'entraîneur Anthony Biscay et le coprésident Jean-Louis Largou. On est ensemble jusqu'à 19h, vous avez le programme, c'est parti.
18h-19h, 100% rugby.
100% rugby
sur France Bleu Pays Basque avec Stéphane Garcia.
On démarre avec le Biarritz Olympique, le BO qui se déplace à Mont-de-Marsan demain avec quelle équipe? Et avant de débattre autour de ce match,
pelouse.
Évidemment.
Synthétique.
Ouais. Allez, on accueille les échos d'Aguilera avec Thomas Vinclair, commentateur pour France Bleu Pays Basque et qui suit le Biarritz Olympique. Salut Thomas.
Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Et pour ce déplacement à Bonny, le BO fait tourner.
Ouais, 10 joueurs intègrent le 15 de départ par rapport à la victoire bonifiée la semaine dernière face à Aurillac à Aguilera. Jules Van Aille, un jeune centre de 20 ans qui fait une première feuille de match d'ailleurs cette saison. Les cadres de cette dernière semaine, les troisième lignes au Callaghan, au Gris ou encore la charnière, Searle, Pagès seront au repos. Un turnover assumé par Roger Ripoll, l'entraîneur du BO.
Il y a des cas de joueurs qui seraient aptes à jouer et qu'on n'a pas voulu mettre sous la feuille. Parce que sur un bloc de 5 matchs de fin de saison, on pense que si ces joueurs, qu'ils ont enchaîné certains matchs, ils jouent tous les matchs, ils baisseraient leur niveau. On a fait Béziers-Aurillac. Et le troisième match, il est toujours difficile, mentalement et physiquement. Sincèrement, on pense que pour garder la dynamique, il faut qu'ils aient du repos. C'est un championnat qui est comme un marathon. Et ce qui est difficile, c'est d'être chaque semaine, physiquement et mentalement, connecté.
Et parmi les retours, on retrouvera Christopher Hilsenbeck, l'ouvreur mis de côté depuis l'arrivée de Simon Mannix, avec notamment l'explosion de Billy Searle.
Envie de se montrer, envie de contribuer un peu à la mission collective là, qui est le maintien là, pour cette fin de saison. Après voilà, c'est les aléas du sport de haut niveau, il y a des choix qui sont faits. J'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même, que ce soit sur le terrain ou en tant que coéquipier. Voilà, après le reste, c'est pas nous qui maîtrisons les compositions, etc. Donc non, forcément content de figurer parmi les titulaires pour ce week-end.
Et Christopher Hilsenbeck qui vit une saison au BO compliquée avec seulement 13 feuilles de match, 6 titularisations, un petit 70% de réussite au pied. Et l'Allemand regrette, il n'a jamais réussi à enchaîner cette saison.
Forcément, c'est un poste qui fait qu'avec la confiance, avec les minutes, voilà, on arrive de mieux en mieux à s'exprimer. C'est vrai que cette année, j'ai pas tellement eu cette occasion de, on va dire, d'enchaîner. Voilà, l'objectif, ça va être d'être excellent sur les bases du poste, que ce soit le jeu au pied, les renvois, le tir au but, voilà, sur ces choses-là auxquelles je me suis entraîné pendant les matchs où j'ai pas joué.
Et d'autres retours demain soir avec notamment Antoine Domergue sur le banc, plus apparu depuis début de décembre, ou encore Ekaï Nimas qui signera sa deuxième feuille de match de la saison. À suivre aussi le retour dans le 15 de départ de Johnny d'ailleurs, qu'on n'avait plus vu depuis la rencontre à Dax fin janvier.
Ça tombe bien, on n'avait pas vu grand monde du côté de Maurice Boyeux sur la pelouse, tellement il y avait de brouillard. Quand on entend ça, Yann, qu'est-ce qui te... T'as l'air déjà chagriné.
Non, je suis chagriné par ton lancement. Oui, c'est vrai que du coup, on voit aussi quand même la profondeur de l'effectif du BO, parce que quand on dit ça tourne à 2-3 noms près, notamment le jeune que tu as cité, que personnellement je ne connais pas, mais sinon le reste, ça a quand même fière allure comme équipe. On parle de Johnny Dyer, on parle de Christopher Hilsenbeck, même si malheureusement pour lui la saison se passe pas aussi bien qu'elle aurait pu se passer, mais... De toute façon, je pense que vu le classement, vu la forme des équipes...
Juste un mot sur le classement, Biarritz est 13e à 8 points de la zone rouge, Montauban, le 15e, est barragiste, et donc Rouen est dernier à 39 points, pour que ce soit clair pour toi.
Ouais, et je pense qu'avec une victoire à domicile d'ici la fin, tu pourras normalement te sauver, même si Roger secoue un peu la tête, mais Montauban est dans une forme telle que je ne les vois pas du tout enchaîner des victoires.
Après, ils reçoivent deux fois à domicile là, à Montauban.
Oui, ça leur a réussi contre Dax de recevoir.
Et après, c'est toujours mieux de recevoir à domicile.
Oui, si tu reçois à l'extérieur, après, il y a un problème, les deux équipes ne sont pas au même endroit. Quoi. Donc, du coup, pour jouer un match, c'est compliqué.
Roger.
Alors, Montauban en reçoit, mais deux matchs difficiles quand même, puisque c'est Nevers et Vannes qui sont à la lutte pour une place dans les six. Je plains Thomas le port entre jeudi dernier et aujourd'hui.
Non, tout va bien. Je le vis bien, en tout cas. C'est essentiel. Non,
mais c'est un choix. Moi, ça me semble plutôt logique. Il a raison, notre ami Roger Ripoll. C'est difficile d'enchaîner cinq matchs, c'est pas possible. Notamment dans les noms que tu as cités, je pense au Callaghan, etc. C'est plutôt jeune, donc il vaut mieux garder les forces vives pour les matchs à domicile d'ici la fin de la saison, et en plus je l'ai dit depuis de nombreuses semaines, ça va faire plaisir à Thomas, je vais parler de la pelouse, c'est que depuis que Mont-de-Marsan a cette pelouse synthétique, ça vole sur le terrain, donc il y a moyen de voir beaucoup de spectacles, et du coup ça sert à rien peut-être de gâcher des forces, notamment sur les vieux, et on sait qu'un terrain synthétique en plus ça fait mal aux articulations pour les vieux.
En tout cas, c'est bien argumenté sur le bloc de 5 matchs et le 3e match qui est un match à l'extérieur pour le Biarritz Olympique. On voit que de toute façon dans la stratégie, le choix est de gagner les matchs à domicile. Est-ce que en suffira? C'est là où je suis un peu plus sceptique, Yann. Mais en tout cas, pour assurer mathématiquement son maintien, ça passe effectivement par des victoires à domicile. Et sachant que la fin de bloc est malgré tout difficile aussi pour le BO, puisque le BO reçoit Grenoble et qui vient de faire des perfs à l'extérieur et se déplace à Agen, où le contexte sera peut-être différent.
Tu parles de contexte, Roger, pour le coup, du côté de Montjagu.
Paris-Paul.
Non, Roger Aguerre, effectivement. On disait, mon 2, c'est 3 matchs sans victoire, avec 2 défaites, 1 nul. C'était 2 défaites en déplacement à Valence et à Colomiers, et 1 nul, effectivement, à domicile contre Brive. Alors ça, c'est pour les stats. Il y a aussi le côté qu'on palpe pas, là, maintenant, à 24 heures du match, mais sur la soirée hommage à André Boniface, en quoi ce contexte peut être défavorable ou non au Montois et pour le Biarritz Olympique?
Alors, moi, je pense qu'il est favorable pour le Stade Montois, parce que effectivement tu viens de parler du contexte et de ce match hommage. Après, aujourd'hui, on sent bien que dans le discours, c'est pas un match qui est ciblé par le staff du Biarritz Olympique, mais c'est là où il faut avoir un discours individualisé sur les joueurs, ou dans les joueurs qui sont sollicités et qui ne l'étaient pas depuis longtemps, ben ça peut relancer une concurrence et mobiliser tout le groupe sur la fin de saison.
On continue à parler de ce déplacement du Biarritz Olympique demain du côté de Bonny, du stade Guy et André Boniface. Un match qu'on vivra d'ailleurs sur France Bleu Pays Basque avec Thomas Vinclair et Grégoire Lascubé. 100% rugby revient.
Toute l'actu du rugby au Pays Basque est dans 100% rugby sur France Bleu.
Avec Yann Blanchard, Roger Aguerre, Thomas Vinclair pour se projeter sur le déplacement du Biarritz Olympique à Mont-de-Marsan. Le Stade Montois, dont la composition d'équipe est tombée avec en première ligne Innocenté, Dufour et Alves, deuxième ligne avec Garou, Durand, l'attelage en troisième ligne, ça fera plaisir à Yann Blanchard, Lizena, Mike Faleafa et Banos, la charnière avec Darky et Willy Duplessis, paire de centre avec Jules Even et Massé, aux ailes on retrouvera Sayers et Sao. Et puis à l'arrière, Bento sur le banc des remplaçants, un ancien joueur de l'Aviron Bayonnais, en la présence et la personne de Thorsten Van Niersveld, Bultel, Edwards, Robic, Vialar, Kevin Vialar, l'ancien joueur de Clermont-Ferrand, qui est au club maintenant depuis et qui a signé d'ailleurs pour l'année prochaine, de Sobie, avec Vakaya et Lalanne, voilà pour les joueurs qui composeront l'équipe de Mont-de-Marsan. Qu'est-ce qu'il y a, Yann? T'as l'air chagriné.
Non, je me demandais quelle Lalanne c'était. Bon, bref. C'est l'équipe type. Mais de toute façon, eux aussi ont grandement besoin de points, parce qu'on parle de la soirée en hommage à
André Boniface.
André Boniface, bien sûr, et il y aura de l'émotion, c'est sûr, mais.
Ils sont cinquième, hein. Cinquième, 63 points. Nevers est à même nombre de points, et Colomiers, le premier non qualifiable, à égalité avec Grenoble, est à 60.
Mais c'est surtout qu'en étant cinquième, il se déplace pour le barrage, donc ça a une énorme importance, donc il va falloir faire le plein de points face à à ce Biarritz Olympique là et ils ont mis l'équipe en, en conséquence. Mais c'est vrai que Mont-de-Marsan, bon, c'est pas une saison ratée, loin de là, hein, mais bon, va sans doute y arriver, mais c'est de plus en plus difficile, on a l'impression, depuis 3 ans, et après, c'est logique parce qu'ils perdent chaque année leurs meilleurs joueurs, quoi. Donc, c'est aussi logique de les voir avoir peut-être un peu plus de mal, et là, en plus, avec un staff qui va bouger la saison prochaine.
Roger.
Ouais, difficulté relative quand même, parce que oui, ils sont chaque année dans les 6.
Un peu plus compliqué, j'ai dit.
Oui, voilà. Ils sont quand même chaque année dans les 6. Donc là, effectivement, en plus, vu l'écart qu'il y a, ils peuvent aller chercher que la 4e place, parce que Béziers est à 8 points, et Béziers est actuellement en 3e. Donc, pour le Stade Montois, c'est un match capital dans la lutte pour les places et pouvoir recevoir un barrage. Et effectivement, équipe type, donc voilà, avec notamment derrière, hein, avec Jules Even qui fait une très très belle saison.
Allez.
Et oui, bien sûr, on parle des copines, donc voilà.
C'est même passé dans les mains des meilleurs coachs quand il était jeune, donc
tout à fait. Donc voilà, mais j'espère que
j'ai Roger,
mais bien sûr,
et j'embrasse au passage Eric Balladin.
J'espère que tu as regardé sa saison,
oui.
Et il fait sa meilleure saison depuis longtemps.
Il s'affirme de plus en plus à ce poste-là, et c'est un joueur que on a parlé souvent de la formation et du top 100 et tout ça. C'est annoncé comme une big big star quand il était jeune. Malheureusement,
c'est voilà, la génération Ntamack, donc il y avait de la concurrence.
Il a eu un peu de mal, mais voilà, il est en train d'exploser. J'ai envie de dire enfin à ce niveau-là.
Et donc voilà, donc le Stade Montois.
On peut être d'accord.
Et le Stade Montois qui on revient à la pousse, même si là ils sont sur une difficulté de résultat. Moi, je trouve quand même qu'en termes de jeu, à domicile, c'est quand même très, très intéressant
juste
à regarder.
Parce que, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a qu'une seule victoire à l'extérieur pour le Biarritz Olympique. C'était Rouen, le 46-13, en septembre dernier. Alors, il y a eu, certes, de bons résultats. Béziers-Nevers, effectivement, ou en plus, sur le contenu, c'était intéressant. Mais ça veut dire qu'on se contente de ça pour le Biarritz Olympique cette saison. On ne peut pas viser plus à l'extérieur.
En tout cas, Simon Manix, lui, cherche une petite victoire référence à l'extérieur depuis, il le dit, depuis plusieurs conférences de presse. Et je pense que ce match à Agen, qui arrive à la fin du mois, peut-être ce match qu'ils iront chercher, parce qu'on sait toute la symbolique qu'il y a autour d'Agen vis-à-vis de la direction actuelle, etc.
Et en plus,
ce serait peut-être le dernier match aussi de Jean-Baptiste Aldigé en tant que, à la tête du directoire, du Biarritz Olympique. Donc, il y a toute une symbolique qu'il y a derrière ce match aussi, même si je te vois faire des gros yeux, Yann. Mais c'est plus simple aussi d'aller s'imposer à Armandie qu'à aller s'imposer au Stade Montois aujourd'hui, je pense.
Ouais. Sinon, c'est Brive la dernière journée.
Ce match risque de servir à rien.
Et surtout quand t'as 5 matchs qui s'enchaînent, vaut mieux que ton 3.
Ça n'existe pas.
5 matchs qui s'enchaînent, vaut mieux que tu laisses de côté le 3e plutôt que le 5e.
Yann, qu'est-ce qu'il y a?
Non, j'étais surpris, j'ai regardé mes mails, j'ai pas eu l'invitation, puisque Bernard Goutat avait dit qu'il prenait une loge pour la Jeune Biarritz. Donc j'attends l'invitation avec impatience.
Tu t'occupes maintenant des loges de Biarritz?
Non, je parle d'Agen. Là-bas.
D'accord.
Mais t'es pas galactique.
Pas encore.
Il avait dit qu'il invitait les Galactiques.
Voilà. Galactique de la radio pour Yann Blanchard, effectivement.
Oh, c'est mignon.
Ah bah oui,
en fin de semaine, comme
un coup de lipette gratuit, allez, je te remercie.
Pas Galactique de la com.
En tout cas, ce match Mont-de-Marsan Biarritz Olympique, ce sera demain soir 21h. Voilà pour le dernier coup de rap. 26e journée de Pro D2, un match qu'on vivra en intégralité avec toi Thomas et avec Grégoire Lascubé sur France Bleu Pays Basque. 100% rugby revient.
De quoi ? 100% rugby sur France Bleu Pays Basque. Stéphane Garcia.
Avec Yann Blanchard, Roger Aguerre et avec Thomas Vinclair, ensemble jusqu'à 19h, avec une deuxième partie où on évoque les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Ça tombe bien, on va se projeter sur le week-end. Ben oui, Yann, me regarde pas comme ça. Tu voulais en parler peut-être cette semaine?
Non.
Ben, tu vas en parler. Je vais vous donner chaque affiche. Vous allez me donner votre avis ou à la limite un sentiment sur ce qui peut se passer.
Un sentiment, ok.
Tu m'as reproché hier de pas t'envoyer le programme. Je t'ai envoyé le programme.
Oui,
donc
sais.
À la limite, tu t'avais qu'à bosser.
Merci, chef.
Oui, mais je ne demandais pas tant. Je demandais juste que tu bosses.
Oui. Avec non plus.
Le premier match, on va. Ben oui, mais je te remercie. UBB Harlequin, samedi 16h.
Joel Smith Jalibert, hein.
De quoi?
Smith Jalibert.
Ouais,
ça fait saliver, en vrai, de joueurs qui sont un peu pareils dans la façon de jouer, offensive en tout cas.
L'affiche fait saliver parce qu'on a revu l'UBB du début de saison la semaine dernière qui a mis 40 points au Saracens, qui reçoit une nouvelle fois dans un stade comble, va y avoir une ambiance assez énorme. Donc, et ce duel-là, ouais, forcément, il fait saliver puisque même si c'était Matteo Garcia qui jouait la semaine dernière en conf de presse d'après-match, Yannick Bru a dit que bon, il y avait pas trop de suspense, c'était Jalibert qui allait récupérer les clés malgré l'énorme performance de Matteo Garcia, mais un doublé je crois, ou un triplé, doublé, et un très bon match. Donc ouais, celui-là, tu vois, je disais que je m'en fiche un peu, mais celui-là, ouais, il m'intéresse, il me fait saliver.
Oui, alors le seul truc, c'est que peut-être qu'on n'aurait pas Damien Penaud qui ne s'est pas entraîné en début de semaine suite à une béquille à la cuisse et qui serait donc incertain.
Oui, oui, alors après, il y a du matos, voilà, on sait que Damien Penaud, c'est quand même un facteur X. Là, Huberti aussi, qui fait un très bon début de saison. Mais c'est vrai que, autant contre les Saracens, il y avait une opposition de style quelque part, parce qu'on sait que les Saracens aiment marquer leur adversaire physiquement, avec leur rush défense et leur volonté de se jouer à une passe et de marquer l'adversaire. Alors que là, on a une équipe qui se rapproche beaucoup plus, je trouve, de ce que fait l'UBB. Donc, alors, on va peut-être avoir un match cadenassé, mais je pense pas, vu les conditions météo qu'il va y avoir et tout. Et puis, je pense que ça va être un match assez spectaculaire à regarder.
Deuxième match, Leinster-La Rochelle, 18h30. Toujours samedi.
C'est le sentiment de revanche
qui revanche.
Après voilà, c'est la dimension physique là qui va jouer, parce que vous en avez parlé hier à travers le qui peut battre, mais
tu veux dire celui qui a perdu Yann.
Ouais, il paraît. Donc dans l'organisation du déplacement, dans le gros match qu'a fait La Rochelle plus les contraintes de déplacement, quelle va être leur fraîcheur physique. Mais en tout cas, ça aussi, quand on sait la rivalité entre les deux équipes depuis quelques années, ça va être intéressant à regarder.
Avantage pour qui là, pour vous?
Moi, Leinster.
Leinster,
je les vois très fort quand même.
Ouais, je les vois très fort. Et puis là, je mets juste un petit bémol à ce que dit Roger. C'est pas moi la fraîcheur physique qui me fait peur, même si c'est vrai qu'en effet, avec les voyages qu'ils ont fait, c'est la lassitude, surtout d'être 10 jours tout le temps ensemble. Je serais curieux.
Ça crée pas.
C'est trop long. Ces joueurs-là, ils sont comme nous. Ils ont une famille. T'as envie de voir ta femme. T'as envie de voir tes gosses. T'as envie de faire des choses avec ta femme. Je parle de sortir, d'aller manger au resto ou comme ça, en fait, de vivre quoi. Là, tu vis pas pendant 10 jours. Non, t'as vraiment l'esprit mal placé, Stéphane, je suis désolé, il y avait rien de...
Non, j'ai envie de rien dire pour te laisser justement dans ce que tu viens de dire.
Je serais curieux, parce que on sait que Ronan Nogara est un fin stratège, de voir justement comment ils ont géré tout ce temps-là. Parce que pour avoir fait, c'est vrai, des déplacements, mais des déplacements à chaque fois de 2 ou 3 jours, déjà, même sur 3 jours, au bout d'un moment, t'en as marre, t'as envie que le match il arrive, t'as envie de jouer, et t'as envie de rentrer, en fait. Alors là, c'est 10 ou 12 jours qu'ils ont passé ensemble, moi je serais curieux de voir justement comment il a fait ça, même s'il avait les portes ouvertes, puisqu'il était chez lui, à Cork pour s'entraîner, donc je pense que les conditions d'entraînement étaient bonnes. Il n'empêche que t'es pas chez toi pendant 12 jours.
Ouais, et puis t'en parlais, Ronan Nogara, on l'a vu un peu sur les réseaux sociaux de La Rochelle, plusieurs reprises, on a vu des mots forts, je les connais, les Irlandais, faut les impacter dès le début, etc. Tu sens qu'il veut rentrer un peu dans la tête de tout le monde avant le match, parce que peut-être aussi qu'il y a ce point d'interrogation, comme disait Roger.
Comme Luis Enrique avec le Barça.
Ouais, ça a bien fonctionné d'ailleurs.
Il y a des choses où on peut ne pas rigoler encore, s'il vous plaît, merci.
Quoi, t'es supporter de Paris?
Oui. Quitte à parler de foot, parlons de l'Athletic Bilbao, s'il vous plaît.
Il y a du monde, on est revenu en ce moment. Et puis le dernier match, je les appelle le troisième. Vas-y, parle-moi de Northampton Bulls alors si tu veux.
Non merci.
Voilà.
Northampton qu'on a vu contre l'Aviron Bayonnais, très costaud.
Le prisme Bayonnard.
En fait, les deux seuls matchs de Northampton que j'ai vu cette année, c'est contre Bayonne, excuse-moi.
Les deux seuls matchs ou le seul match?
Non, le seul match.
T'as pas eu match. T'as bien suivi la Coupe d'Europe, t'es un champion. Oh mon dieu. Quel charlatan.
Ah, mais c'était 60 en un match qu'on a pris, c'était pas 2 fois 30 en fait.
Malgré les 40 en première période.
Ah, ok, ok.
Roger, t'es dépité.
Non, pour une fois qu'il se fait attraper, quand même, c'est pas mal.
tu vois, le regard. Les Bulls, mine de rien, c'est quand même la dernière équipe, la seule équipe sud-africaine dans cette compétition encore.
Oui, tout à fait. Donc, d'où la réflexion que l'on a eue 10 000 fois sur la pertinence d'avoir des équipes sud-africaines dans cette compétition, puisqu'il n'y en aura, je pense, aucune dans le dernier carré. Moi, je vois Northampton l'emporter. Et donc voilà.
Il a raison, tout ça pour ça en fait.
Tout ça pour ça.
C'est-à-dire que ça n'amène pas un grain de sel supplémentaire à cette compétition, puisqu'ils n'arrivent même pas dans le dernier carré.
Peut-être un peu d'argent.
Qu'on va se tromper. Hein.
Mis à part une empreinte carbone qui explose, le reste, c'est mon côté écolo ça qui.
T'as raison, la main sur le cœur. Et puis la dernière affiche, Toulouse Exeter, ce sera dimanche à 16h. Et là, sans doute, je vais vous entendre un peu plus, Thomas.
Ouais, c'est du tout cuit ce match, facile. Pas trop de difficultés pour moi face à
ça. Ils
apprennent le trap.
Ah non, mais tu pourras me le ressortir. Non, je pense que sincèrement, avec le match qu'il y a eu la semaine dernière face au Racing, où tu mets une mi-temps pour entrer, bon, t'étais contre le vent, mais tu mets du temps à rentrer dans ton match, et c'est à la pause, etc. Puis ensuite, tu déroules. C'est vraiment quand tu reprends ta charnière, etc. C'est le premier match avec ta charnière, là, ce sera le deuxième. T'as le retour de Ramos, normalement, qui devrait revenir.
C'est qui récupère les Avengers, quoi.
Tu reprends tout le monde, t'enchaînes une deuxième rencontre de Coupe d'Europe. Ça, c'est typiquement pour le Stade Toulousain. Enfin, moi, je vois pas un monde où ils peuvent perdre contre Exeter.
Ouais, mais
merci beaucoup, Xavier Demoulin.
Malgré tout, c'est quand même Exeter est une équipe qui a, on sait comment Toulouse adore avoir le ballon, et je pense que dans les oppositions c'est une équipe quand même qui peut la mettre en difficulté, parce que Exeter produit énormément de jeux, a énormément de lancements de jeux, et je pense que ça peut aussi là être une opposition très intéressante à regarder.
Yann Blanchard est en train de me demander. On a joué, donc l'Aviron Bayonnais a joué contre Exeter.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on a joué contre Exeter. Et d'ailleurs, il y a eu une erreur une fois dans un qui peut battre, parce que dans quelle était la dernière équipe à avoir battu l'Aviron à domicile, c'était Exeter. Vous n'avez pas précisé championnat ou.
Non, Exeter a perdu.
Non, Exeter a gagné à Bayonne.
Non, Exeter a perdu.
C'est Glasgow qui a gagné.
Alors j'ai fait une erreur. C'est Exeter qui prend une.
Oh là, c'est la saucisse.
Les gars,
vous êtes en train de perdre du Avengers.
La prochaine fois que tu lances un sujet couvrant,
vous êtes en train de perdre du crédit, les gars. Oui. Exeter a perdu lourdement à Jean Daugé, parce qu'effectivement c'était le dernier match de Coupe d'Europe pour terminer.
C'est Glasgow.
Oui, c'est Glasgow qui a gagné.
Allez, on bascule rapidement. Du coup, allez sur la Challenge Cup, un mot rapide. Gloucester Ospreys.
Non.
Clermont Ulster, ça oui, mine de rien, il y a quand même un truc, c'est que Clermont reste la seule équipe française en compétition, en lice dans cette Challenge Cup, et avec c'est... l'équipe qu'ils ont, c'est mais franchement un truc intéressant pour eux.
C'est une des rares surtout qui s'échappe pas, c'est-à-dire qu'on a vu un sujet de tes confrères de France 3 où Christophe Furios disait ben nous on va aller chercher la victoire dans le challenge.
Et ils se le font. Alors que la saison en top 14 c'est pas facile déjà.
Non, et de ce qu'il disait aux joueurs, ils se le sont promis depuis l'intersaison, c'est-à-dire que c'était un objectif depuis le début de la saison et pas juste parce qu'ils sont en quart de finale. Donc au moins ils se cachent pas, hey, les gars, on va aller la chercher celle-là et hey.
Oh, 10 sur 10.
Rien que pour ça, on termine sur ça, je vous propose. Ce sera samedi, 13h30, Clermont Ulster, rapidement les deux autres quarts de finale, Sharks Edinburgh et Travis Connard. Voilà, ça sera dimanche pour le Travis Connard. 100% rugby revient dans quelques secondes pour les infos du jour.
100% rugby, les infos du jour.
Vous réagissez pas en studio, c'est comme vous le sentez. Roger Aguerre, Yann Blanchard, Thomas Vinclair, la première. C'est une info qui va sans doute rendre jaloux les supporters du Biarritz Olympique, puisque Valence Roman a annoncé la construction d'un nouveau stade Horizon 2028, 44 millions d'euros pour l'entièreté des travaux et 32 millions financés par Pierrick Brignier, qui est un nouveau mécène qui est originaire de la Drôme et donc qui est PDG du groupe Coesio, pour être clair. 7000 places, peut-être même 10 000, avec la création d'une quatrième tribune. En attendant, pour être clair, le Georges Pompidou, le stade actuel où Valence Roman joue depuis la saison 2019-2020, va connaître plusieurs aménagements le temps des travaux du nouveau stade. 10 millions d'euros débloqués par la ville pour aménager l'actuel stade en attendant de monter le futur stade Horizon 2028. Est-ce que ça vous fait réagir?
Ce qui fait qu'il n'y a plus beaucoup de stades de Pro D2 qui n'ont pas été refaits. Enfin, en tout cas, sur les dernières années, hein. Parce que, il en reste, à mon sens, il reste Béziers qui doit encore être un peu refait. Même s'ils ont refait, les zones hospitalité légèrement. Mais ce stade, il mérite quand même d'avoir un petit coup de...
Le stade de la Méditerranée.
Ça dépend ce que tu appelles refait.
Non, refait.
Je suis désolé, Dax s'adapte, mais excuse-moi, les vestiaires, hein, tout ça. Non, c'est catastrophique.
Oui, mais c'est pas ce qui te fait, les vestiaires, c'est pas ce qui te ramène de l'argent dans les caisses du club.
Les loges qui ont été créées,
qui a été faite avec GL Events derrière les poteaux par.
Oui. On n'est pas sur un investissement de 20 millions d'euros, quoi.
Non, mais en tout cas, bien sûr que l'outil, c'est le stade. Enfin, tout le monde, c'est quelque chose que tout le monde défend. Mais dans les sommes que tu annonces, il y a quand même 32 millions qui sont donnés par
70% par un mec. C'est même plus.
Et 12 millions par des aides publiques.
C'est ça qu'il faut retenir. C'est même 20% par Valence Roman Agglo. 75% par ce nouveau mécène, ce patron du groupe Coesio, Pierre Brignier, sur ses fonds propres, il le fait en plus. Et le club, lui, le VRDR, participera également à hauteur de 5%. Voilà. La deuxième info, c'est deux décisions de justice de la commission, effectivement de la Ligue. Arnaud Egui, suspendu plusieurs semaines.
Qu'est-ce que tu l'as fait?
C'est étonnant. Effectivement, l'adjoint de Fabien Gégenbécher à Lyon, sanctionné pour avoir contesté les décisions des arbitres lors du match qui opposait le Loup à Bordeaux. Et en fait, cette décision a été décidée après prise en compte du casier disciplinaire d'Arnaud Egui.
Qui est vide.
Qui est évidemment vide. Et donc Arnaud Egui sera privé de banc pour les deux prochains matchs, à savoir le déplacement à Perpignan et la réception de Pau.
Après, ça lui rend un peu service parce que je pense qu'à Perpignan, il aurait serré aussi. Donc, du coup, vaut mieux qu'il le prenne juste avant d'y aller. Au moins, il sera en tribune à Perpignan.
Et le second, la seconde décision de justice, c'est Alexandre Ruiz, évidemment.
Oh, on là, parlait... ça me plaît.
Elle est plus drôle, celle-là, je trouve.
L'entraîneur de Soyeux Angoulême, reconnu coupable des propos véhéments contre l'arbitre originaire de Saint-Jean-de-Luz et licencié en Dai, Evan Urismendi. Après le match perdu par Soyeux la semaine dernière à Grenoble, 21-18, en conférence de presse, Alexandre Ruiz avait notamment dit que ben, l'arbitre, Evan Urismendi, n'avait pas été digne. Il a donc été reconnu coupable d'action contre un officiel de match et plus particulièrement de manque de respect envers l'autorité d'un officiel, ce qui lui vaut du coup 3 semaines de suspension jusqu'au 27 avril. Il ne pourra pas accéder au terrain, ni même accéder au vestiaire des officiels de match jusqu'à la fin du mois.
Et sachant qu'il aurait pu prendre beaucoup plus et que la commission de discipline lui a mis un peu moins pour inexpérience.
Ouais.
Soi-disant, donc ça vu qu'il est il est entraîneur depuis très peu de temps, etc.
Et oui,
c'est quand même une grosse blague quoi. Il a été arbitre international.
Ce qui est faux, il entraîne depuis 20 ans.
Oui, il entraîne depuis, en plus, comme tu dis, il entraîne au niveau professionnel.
Mais c'est quand même
assez étonnant quoi quand un arbitre international se fait prendre la main dans le sac, on lui parle d'inexpérience concernant des propos sur un arbitre.
Il a tenu ces propos-là quand on faisait presse, puisqu'il a été le dire à la fin du match directement à Evan. Et c'est pas parce qu'il est d'ici que je vais le défendre, mais oui, moi j'aurais aimé qu'il prenne vraiment le maximum et j'aurais mis des travaux d'intérêt généraux. Je l'aurais fait aller arbitrer un peu en rugby amateur.
Après, il faut, moi je pense aussi qu'on peut quand même dépassionner le débat là, que l'on a autour du rôle et de la fonction que chacun avait avant. Parce que au-delà de ça, c'est moi je l'ai regardé un petit peu le match et j'aime beaucoup Evan. Mais il y avait quoi râler.
Non, attends.
Il y a râler et s'exprimer, tenir les propos qu'il peut tenir.
Moi, je sais que quand il était à Montpellier, il a eu une attitude à Bayonne déplorable en parlant au 4ème, à 5ème, en leur disant vu le niveau où tu arbitres, c'est pas toi qui va me dire comment arbitrer. Je veux qu'il mange ses verres et qu'il paye pour tous les matchs de merde qu'il a fait parce qu'il voit que ça arrive de faire des matchs de merde et il en a fait un paquet dans sa carrière.
C'est bon? Non mais t'as vidé. Moi je te laisse vider. Hein.
Là, Roger, là tu parles avec l'affect.
On est sur les infos du jour rapide. T'as un coup de gueule terrible à passer.
Non pas terrible, c'est pas réglé encore.
C'est pas réglé, mais si je peux le mettre. Effectivement, alors l'AS Bayonne se sent particulièrement floué par rapport aux oppositions qui sont sorties, puisque la logique sportive et réglementaire n'a pas été respectée. Et donc effectivement, le club était en litige et parce qu'il s'est vu privé du droit de recevoir en barrage.
Bon, ben voilà pour ce point de vue donné effectivement.
Commission, 3 semaines.
Merci, au revoir, ça critiquera pas. Voilà pour les infos du jour. On passe dans quelques secondes au qui peut battre. Ça vous intéresse de venir avec nous? N'hésitez pas, jouez pour gagner, notamment pour remporter le duel contre Yann Blanchard.
Pour l'aider cette semaine, peut-être.
Oui, je laisse gagner parce qu'il y a une semaine difficile.
Aucune victoire cette semaine pour Yann Blanchard à gagner. Souvenir d'avoir joué avec nous, le plaisir déjà.
Ballon.
Et puis un ballon France Bleu, évidemment, que tout le monde collectionne. N'hésitez pas à nous appeler 05 59 17 deux fois sur France Bleu Pays Basque 100%. Rugby revient.
Toute l'actu du rugby au Pays Basque est dans 100% rugby.
Reste là,
sur France Bleu.
Et tout de suite, vous l'attendiez tous, le qui peut battre. Le qui peut battre avec Roger Aguerre, avec Yann Blanchard. Yann qui va tenter au moins de sauver l'honneur.
J'ai gagné.
Parce que cette semaine, il a eu deux défaites.
Soyez gentil avec lui, le pauvre.
Cette semaine contre Benoît Caballero et contre Mickaël Garandian. Trois questions.
Là, Yann, franchement.
J'ai honte.
Je te laisse gagner.
J'ai honte.
En entendant cette phrase, là, je peux pas.
J'ai honte.
Ben, c'est pour mieux rebondir. Trois questions. Le premier arrivé à deux gagne. Roger Aguerre contre Yann Blanchard. Je te mets pas Thomas parce que tu sais que t'as les réponses. Donc je veux pas t'entendre. Voilà. La première, on a appris la disparition d'O.J. Simpson, ex-star du football américain.
C'est pour ça qu'il m'a fermé
acquitté le. Lors du procès du siècle pour double meurtre en 95, il est mort d'un cancer à l'âge de 76 ans. Bon, il a été acquitté. Voilà. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé d'un rugbyman.
Zach Ramis.
Non, même pas. Qui a rejoint la NFL. Louis Rizamit.
Oui.
C'était Jean-Michel à peu près, pas du tout.
Bah, je pensais que c'était la question.
Le Gallois.
Oui.
Quelle équipe il a rejoint?
Kansas.
Ah, Roger. Victoire de Roger sur
le sol. Attends,
non, tu m'écoutes.
Tu sais pas quand c'est que la question va être posée. Du coup, tu te prépares pas.
Moi, là, je commence à en avoir marre, Stéphane, de cette semaine. Je t'appelle.
Elle se finit. Elle se finit. Il n'y a pas de souci.
Je veux plus jamais te revoir dans cette émission.
C'est pour ça tombe mal le lundi, je pense.
Il a donné une réponse pendant que tu posais la question.
Mais j'ai pas dit, on attend la fin.
Mais exactement.
Quand ça arrive.
Quand c'est moi, on attend la fin.
Non, non, il y a le Blanchard.
C'est pas point l'autre. Ok, d'accord. Non, mais c'est juste pour savoir.
Juste pour que ce soit clair.
Non, il n'y a rien de clair.
Écoute,
deuxième question.
Quand c'est. Non, quand c'est clair, Yann, je te dis, quand il y a un truc
à... C'est pas pour faire Fanny, maintenant je te laisse.
Je le donne avant la question. Je donne avant la question. Si c'est faut attendre la fin, si c'est chacun son tour, si c'est je veux pas de 1, 2, 3, 4 comme tu as l'habitude de donner.
Tu l'as dit ça hier,
oui, je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Oui, je te l'ai dit. Je te l'ai dit.
Jamais.
On passe, on passe à la deuxième question. Un point pour Roger Aguerre. Pas ça, Zinedine. Allez. Question de vitesse.
Mais donne-lui.
Question de vitesse.
Question de vitesse. Oui, non, mais je précise pour toi parce qu'après tu vas chouiner.
À la vitesse, c'est pas mon fort non plus. Hein.
Bah, et pourquoi pas. Je veux que vous me donniez.
C'est gênant ce rire.
Moi, je te laisse,
même. L'équipe qui est actuellement leader de National. Une.
Allez, Yann Combe.
Yann Blanchard.
Hein, mais ça, Yann Blanchard. Vous connaissez pas.
Félicitations.
Dès que ça parle de rugby, là, il n'y a plus personne, là.
Albi, 91 points. Mais égalité avec Nice, 91 oui, points. Mais c'est la différence, oui. Effectivement. Et Narbonne, 3ème.
Bravo, JB Declercq.
88 points.
Quoi,
ancien joueur.
Quoi, le JB Declercq.
Et voilà pour les deux premières questions. Ça fait donc égalité.
Eh ben, une question.
Tout va se décider.
Je t'ai dit que je te laissais gagner.
Tout va se décider.
Arrête, Roger Aguerre.
Sur la troisième et dernière question avant de prendre la direction d'Anglette avec Jean-Louis Lardoux et avec Anthony Biscay dans quelques secondes qu'on va entendre tous les deux avant le match du côté de Nîmes
pour les barrages. Oui, allez, enchaîne.
Non, c'est l'heure de faire teaser le truc là. On parlait de la Coupe d'Europe.
Oh non.
De rugby qu'on vient de parler et on a parlé pendant quasiment un quart d'heure. En cas de victoire du Leinster contre La Rochelle, où jouerait sa demi-finale?
Dublin.
La province irlandaise. Non, pas Dublin.
Londres.
Non. Là, je vous laisse. Allez-y. Hein.
Moi, La Rochelle, Toulouse.
Je demande un stade.
Stade. Stadium.
Non.
Millennium.
Non.
Stade de Tottenham. Hotspur.
Non, c'est la finale.
Citez, les gars. Parce que
Twickenham.
Non.
Wembley.
Non.
Des indices.
Des indices.
Irlande.
Irlande.
Cork.
Non.
Aptivia, Aviva, Millennium.
Pas habituel en rugby.
Non, c'est là où il y a le...
Non, mais dis rien. Sinon, tu vas lui donner un indice.
Allez, même le tapis, il est mort. Même la petite musique s'est arrêtée.
Non, je l'ai dit.
Alors, t'as dit Cork.
Je vous jure,
t'as dit Cork. C'est là où il a rushé en ce moment.
Je vais te demander.
Attends,
c'est pas
non,
c'est Cork. Non. On va couper le micro des deux. On va couper le micro. C'est coupé. Le micro est coupé. Chut, tu me laisses expliquer.
Laisse finir.
Il n'y avait pas d'auditeur à l'antenne ce soir. Arnaud, il va prendre le temps de réécouter et il va me dire qui a gagné.
Doucement. Il y a une petite histoire. Il y a une petite histoire autour de Croque.
Oui, en plus, on va l'écouter. Effectivement, cette petite histoire, puisque c'est pas la première fois que le stade est réquisitionné. Pour accueillir un match de rugby, la dernière fois c'était il y a 15 ans, demi-finale de Coupe d'Europe remportée à ce moment-là par le Leinster contre le Munster. Et à cette occasion, on avait eu le record du nombre de spectateurs pour un match de rugby entre clubs. Bon, 82 300 places à disposition.
Franchement, attends, je vais aller regarder.
Ouais, Croc,
c'est pas la réponse. Le stade, c'est Croc Park.
Et puis Croc Park, j'en profite pour glisser, c'est aussi un match historique entre l'Irlande et l'Angleterre lors du Sud Nation. C'était en février 2007. Victoire des Irlandais. 43 à 13, c'était avec Audrey Scholl, O'Gara, O'Connell, Stringer, tout ça. Et il y a une jolie BD qui est sur l'histoire de Bloody Sunday. Je vous invite à lire ça. 100% rugby, on bascule à présent sur l'Anglette Olympique.
Sur et certain.
Ah ben oui, ben on verra ça. Thomas est parti écouter, on va vérifier, tu sauras avant.
Mais j'ai aucune confiance en Thomas.
Mais il faut avoir confiance et confiance aux autres. Peut-être c'est ce qui fera la différence pour basculer ta vie dans le positif. La dernière ligne droite avec l'Anglette Olympique, la ORC qui se déplace dimanche à Nîmes en barrage de National 2
le
avec
Blampignon.
De Saint-Quentin et de Saint-Jean, l'un de ses coprésidents anglois, Jean-Louis Lardoux. Salut Jean-Louis.
Salut, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Dans quel état d'esprit on est à quelques jours de ce match de barrage contre Nîmes, un adversaire qu'on a peu l'habitude de rencontrer?
Eh bien, dans un état d'esprit très positif, très excité, content. C'est l'aboutissement d'une saison sympa. Les joueurs se sont gagnés le droit d'aller se jouer un match de phase finale dans un stade qu'on connaît pas, mais qui a quand même une histoire, dans un endroit sympa. Et je pense qu'on est tout le monde est sur la même longueur d'onde pour aller faire quelque chose de sympa là-bas.
Alors les joueurs sont actuellement à l'entraînement. Vas-y Roger, t'as une question.
Oui, quand tu dis quelque chose de sympa, Pete, c'est quelque chose, c'est un sentiment abouti d'être qualifié, ou il y a une vraie ambition sportive à travers ce match?
L'ambition sportive, oui. L'objectif est atteint aujourd'hui. Il est atteint, mais il y a quelque chose dans ce groupe de vraiment de sympa, de positif, et vraiment, on a envie de continuer, quoi. On a envie que cette saison dure longtemps. On va être dans une atmosphère un petit peu particulière. Je crois que ça annonce beaucoup de monde à Nîmes. Hein. C'est des gros publics. C'est une grosse équipe. C'est une équipe qui finit devant nous, qui a tout pour être favori. Mais c'est des choses qui nous vont bien, et je sens que tout le monde est vraiment très très déterminé pour faire quelque chose de bien là-bas, hein, c'est sûr.
Eh ben, on le disait, donc les joueurs à l'entraînement avec le staff, avec Anthony Biscay qu'on a joint tout à l'heure justement pour lui demander son regard sur ce déplacement du côté de Nîmes. Eh bien, on écoute l'un des entraîneurs avec Seb Fouquet de l'AORC.
C'est un nouveau départ presque dans la saison, hein. La pression du maintien a été évacuée, l'ambition d'aller chercher des phases finales a été acquise, donc maintenant c'est que du plaisir et c'est que l'envie d'aller, que l'aventure ne se termine pas le plus rapidement possible.
Et donc vous allez vous déplacer à Nîmes, troisième de la poule en face. Est-ce que vous savez à quoi vous attendre ou non, pas réellement?
Oui, puisqu'aujourd'hui avec le partage, les plateformes de partage de matchs, on arrive à forcément avoir des images de toutes les équipes de National 2. C'est également le cas pour eux d'ailleurs. C'est une équipe qui correspond à ce qui se faisait de mieux dans notre poule. Hein. C'est potentiellement des équipes qui ressemblent pas mal à Niort. Donc voilà, c'est une équipe qui est bien bien suivie, bien poussée dans son stade. Ils reçoivent beaucoup de supporters et de spectateurs. Donc c'est cool, quoi. C'est un bel endroit pour aller jouer des phases finales.
Ça veut dire un sacré déplacement aussi pour vous. Bon, c'est le principe des phases finales, mais là, un sacré périple qui vous attend pour vous déplacer jusqu'à là-bas.
Oui, mais ça fait partie, je crois, des bons moments dans l'année. On est parti tout un week-end pour aller à Lille, on est parti un week-end pour aller à Rennes. Moi, je ne prends pas ça comme un souci. Au contraire, je trouve que ça va permettre de passer encore plus de temps avec les joueurs. Il y a un bon petit groupe de potes, j'ai l'impression, dans cette équipe. Donc pour eux aussi, ça permet de partir deux jours ensemble. Tous les voyants sont ouverts pour passer un bon week-end.
Voilà, tous les voyants au vert pour passer un bon week-end du côté d'Anthony Biscay. On a l'impression que ce groupe, il a envie de croquer à pleines dents cette aventure qui s'est donné le droit de disputer après 12 derniers mois galère. On se souvient, il y a 12 mois, vous étiez encore en train de lutter pour le maintien. Yann, peut-être, Tom, est-ce que tu penses, alors, en attendant de récupérer effectivement Jean-Louis, mais est-ce que tu, sur la saison, la fin de saison de l'Anglet Olympique et ce déplacement à Nîmes?
Mais je pense que tu as pointé du doigt ce qui fait la force de cette équipe, parce qu'il n'y a pas d'énormes changements par rapport à la saison dernière, mais voilà, l'année dernière, il y avait plus d'irrégularités, ils ont été chercher de la régularité cette saison, et ils se sont donné le droit d'avoir ce genre de match-là, et j'aime beaucoup le discours d'Anto, pour une fois, qui dit que voilà, c'est pas gênant, ils vont partir tout un week-end ensemble, se recréer des souvenirs encore un peu plus dans cette saison qui est pas fantastique pour le moment, mais qui est très bonne pour eux. C'est vrai que ce discours positif-là fait du bien, et t'as envie de dire, oublie que t'as aucune chance, et fonce, et va te chercher un match de plus, pourquoi pas, dans la saison.
Puis un groupe qui s'est forgé aussi à travers ces 12 derniers mois, avec des gamins, pour certains, qui grandissent petit à petit, et qu'on voit émerger des gamins sérieux.
Je vais me faire engueuler, parce que chaque fois que je parle d'anglais, j'en parle pas, mais oui, il y a des gamins du club, ou du moins qui sont arrivés dans les catégories de jeunes. Vous parliez de Grégoire qui va commenter demain la SQB avec Thomas. Il y a son fils notamment, qui prend de plus en plus d'ampleur. On va citer Ibai Lecomte, formé à Bayonne et à l'ASB. Sinon,
je parlais du gamin Ibai Lecomte.
Non,
ça, c'est parce que dans la tête, il reste un gamin.
Ah ouais, ça c'est sûr que dans la tête, il restera toute sa vie un gamin, je pense.
C'est gratuit, ça.
Mais il y a beaucoup de joueurs issus du club qui portent haut les couleurs de ce club, et c'est bien ce qui arrive 12 mois après, comme tu dis, avoir vécu une saison pas galère non plus, mais voilà, une saison décevante.
Ah, on est avec Jean-Louis Largou, qu'on tente de récupérer, en tout cas le coprésident. Ah, ça semble un peu compliqué pour l'Anglet Olympique. Juste, mine de rien, parce que des saisons difficiles, tu en as aussi connu, Roger. L'année dernière, ça a été un peu plus compliqué. En quoi un groupe peut se construire sur ça pour repartir et rebondir la saison suivante?
C'est à l'image de ce qu'a dit Anthony, c'est sur l'aventure humaine. Et là, dans un contexte de phase finale, l'objectif est atteint. tu te déplaces dans une équipe qui a une autre ambition que celle de l'Anglette olympique. Donc là, le but, c'est d'avoir une vraie aventure humaine et d'aller s'étalonner vers un autre rugby et d'aller chercher un exploit et des souvenirs sportifs et humains pour le reste de la vie. On a envie de dire dans les phases finales. D'autant plus que c'est un groupe qui est quand même, il y a quelques joueurs d'expérience, mais qui dans l'ensemble va être le même l'année prochaine. Donc ça peut être cette aventure humaine peut être la base de l'année prochaine.
Jean-Louis, qu'on a retrouvé, Jean-Louis Largouc, ouais. Au président. Comment ça va se préparer d'ailleurs?
Petit problème, ouais.
Il y a pas de souci, on vous a retrouvé. Comment se prépare le voyage? Comment il s'organise ce voyage du côté de la ORC?
Ah ben les joueurs vont partir samedi matin. Question de prendre un petit peu le temps, voilà, le temps d'en profiter. Samedi matin avec un petit casse-croûte un petit peu ancienne. Arrivé à Nîmes, je crois que on a réservé un terrain d'entraînement pour faire un petit décrassage samedi soir et après une nuit ensemble et bon après du très classique, mais comme disait Anto, c'est des moments sympas où il se crée des choses aussi. Ouais.
Rapide question, Jean-Louis, on parlait de base parce que c'est une équipe assez jeune. Est-ce que la base sera encadrée par les mêmes coachs la saison prochaine?
C'est une question qui est, c'est un sujet en cours et voilà, on en parlera au moment où il faudra le faire. C'est un sujet comme dans un travail de dirigeant, il y a toujours la préparation des saisons suivantes qui est en cours. Donc c'est un sujet sur lequel on penche. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur le plaisir des prochains matchs. On n'est pas encore là dedans.
L'Anglette Olympique ira donc à Nîmes disputer son barrage de National 2. Ce sera ce dimanche le 14 avril à 15h15 au stade Nicolas Kaufmann. Et puis on a écouté, oui, Yann Blanchard a sauvé l'honneur avec une victoire au quiz ce soir.
Je vous excuse de pas m'avoir
Yann pris. Tu restes quand même à deux défaites pour
je
la semaine. Merci Yann, merci Roger, merci
son,
Thomas. 100% rugby, c'est fini pour ce soir. Bon week-end et à lundi.
C'est bien, hein.